Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, émission numéro 249, Christophe Rollin au micro, Francis est également là, mais il n'y a pas de personne d'intervenant en début d'émission. On revient à une époque où, que Gérald a connu peut-être, où ce n'est que moi qui lance tout. Mercredi 14 décembre, j'ai annoncé émission 249, peut-être, enfin du moins peut-être, Stefano Montanari aurait pu être présent, ce n'est pas le cas. Joanne Hibert aurait pu également être présent, ce n'est pas le cas. Pourquoi aurait-il pu venir tous les deux? C'est pour le Messie qui est donné à l'Opéra et puis Un qui est donné à la Célestine, la petite salle des Célestins. Ils ne sont pas là, donc pas d'invités. Néanmoins, Francis et moi allons faire quelques annonces. Nous allons parler de ces deux spectacles. Le Messie que n'avons pas encore vu, ni Francis ni moi, mais possiblement un excellent spectacle. Un que nous avons vu, lui et moi, et c'est très, très spécial, un peu de provoque, à peine. Et puis il y aura la chronique, bien entendu, l'égoïsme se partage. Aujourd'hui, question de bande dessinée. Et puis nous ferons différentes annonces, puisque voilà, vous l'avez compris, auditeurs, auditrices, on approche fin d'année civile, donc beaucoup de spectacles pour les fêtes de fin d'année. On va commencer avec un titre qui annonce un peu bien cette fin d'année, cette année qui s'est écoulée. Le dernier jour du disco, c'est au singulier, un titre de Juliette Armanet, extrait de son album Brûler le feu. Et puis nous continuerons ensuite avec maintes annonces, et puis une chronique, et puis de la musique et différentes choses. 14h07, il est temps de commencer avec Juliette Armanet. Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que vous écoutez sur le 102.2 de la bande FM, si vous le faites à Lyon, et sinon, sur Internet, vous pouvez également le faire, c'est radiocanu.org.
Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main, c'est la fin, le soleil.
Ah bien, Juliette Armanet elle-même vient de le dire à l'instant, c'est la fin. C'est également le début. Bonjour Francis.
Bonjour, bonjour.
Ce titre, pourquoi l'écouter ? Eh bien, parce qu'il se trouve sur la compilation des Inrock, c'est le numéro 5. Auditeurs, auditrices, savez-vous que les Inrockuptibles ont redémarré, ont une renaissance, je crois que c'était en juin dernier, me semble-t-il. Ils sont passés du rythme hebdomadaire qu'ils ont eu pendant des années, ils sont passés au rythme mensuel. Je pourrais peut-être même dire qu'ils sont repassés au rythme mensuel qu'ils avaient à une époque. Mais alors là, pour le coup, je crois que ça remonte à 30 ans, Francis. Hein, 91, 12, 13 peut-être.
Ça me rajeunit absolument.
Ils étaient mensuels à une époque, puis ils étaient passés hebdomadaires. Et là, donc, ils repassent mensuels avec peut-être... Je parle très fort, peut-être un chant du cygne, parce que je crois que la presse de manière générale ça ne va pas très bien. Mais bon, les Inrock continuent avec des CD et sur ce numéro 5, le numéro 6 est sorti assez récemment, je crois, il y a une ou deux semaines, avec également encore une compilation. Et donc sur cette compilation du numéro 5, il y avait ce titre de Juliette Armanet, Le dernier jour du disco, extrait de cet album Brûler le feu. C'est intéressant tout ça. Un commentaire musical peut-être, Francis ? Ouais,
c'est en fait l'ascension. Juliette Armanet, c'est vrai qu'elle est vraiment, elle fait le buzz en ce moment. Ça marche très bien. Et en effet, c'est bien qu'on puisse écouter des jeunes artistes comme ça qui sont en train de conquérir le public, les oreilles françaises.
Nous allons parler, vous l'avez compris, auditeurs, auditrices, on va parler de musique, parce que l'arrivée de Francis dans l'émission, il y a une belle oreille musicale. La semaine dernière, vous avez manqué cela lorsqu'on écoutait le titre à la demande de Benoît Roux, éditeur, gérant, créateur des éditions Libel, lorsque nous écoutions le titre des Smiths.
Des Smiths.
Le titre avec Johnny Marr à la guitare. Francis, il était seul, hein, tu nous disais hors antenne.
Oui, il me semblait qu'il était seul, tout à fait.
À vérifier, enfin, ça peut tout à fait se vérifier, puisque j'ai mis la piste, le titre de YouTube sur le blog. Et c'est bien une version live, comme l'avait demandé Benoît Roux. Et voilà. Benoît Roux, que j'ai pu recroiser depuis la semaine dernière, il y avait la braderie, je ne sais pas si on l'avait annoncé, si, on l'avait annoncé, la bibliothèque du 2e arrondissement, qui était samedi, j'ai pu y passer, j'ai trouvé deux beaux bouquins Berlioz pour la modique somme de 2 euros, alors chacun, donc j'ai dû débourser 4 euros, mais c'était stupéfiant, ils ont brisé les prix, cassé les prix d'une manière assez effrayante. Auditeurs, auditrices, pensez-y pour ces fêtes de fin d'année, un livre... Ça peut toujours faire plaisir. Et ceux des éditions Libel sont vraiment de très beaux objets. Sans transition, je crois. Nous pourrions donc évoquer je l'ai indiqué en tout début, en prise d'antenne. Il avait été question, fut un temps, de recevoir Stefano Montanari pour un opéra qui est donné actuellement. Ça a commencé ce lundi 13 décembre. Je propose d'en parler dans un deuxième temps. On va peut-être commencer plutôt sur... commençons sur la musique. Il y a un concert au Labo à venir, différentes choses. Et nous évoquons dans un deuxième temps donc un peu de théâtre avec Joanne Hibert qui aurait pu venir, moi je le souhaitais, c'est lui qui ne pouvait pas, mais ça aurait pu se faire pour sa pièce Un qui est à la Célestine. Donc
on a été la voir,
on va pouvoir en parler
trois choses sur cette pièce magnifique.
On tente d'organiser tout d'abord un peu de musique, c'est ça, on va, et puis après je mettrai Éternel pour faire transition. Ah ouais, très très bien, je mettrai Éternel pour introduire Un. Donc pour un peu de musique, Stefano Montanari, je sais jamais comment accentuer l'italien, aurait pu venir pour parler de ce Messie de Georg Friedrich Händel, un oratorio de 1742 qui n'avait pas été pensé pour la scène par Händel, mais va être donné dans un dispositif scénique bouleversant. Là, je reprends des éléments de la brochure de l'Opéra de Lyon. Un dispositif scénique bouleversant qu'en 2009, la Britannique Deborah Warner a imaginé pour l'oratorio le plus connu du musicien et qu'elle reprend cette saison à l'Opéra de Lyon. Donc c'est un oratorio, c'est-à-dire... comment dirais-je, de manière un peu peut-être simple, voire simpliste, c'est grave, c'est empesé, les chanteurs sont sur scène pour évoquer des choses un peu dures, et puis il n'y a pas beaucoup d'action. Un opéra, c'est avec des costumes, des décors, le texte est connu par les chanteurs, ils n'ont pas de pupitre sous les yeux, et donc ben, c'est le cas pour cet oratorio de Händel, il est donné en version opéra, et non pas version oratorio, donc c'est l'occasion à l'Opéra de Lyon d'aller voir des chanteurs évoluer sur scène et non pas rester avec leur pupitre, voir davantage d'émotions. J'ai dit qu'il y avait peu d'action. Alors oui, normalement l'oratorio, on chante du texte, et bien là le texte sera un peu joué, il y a donc une mise en scène, il y a des décors, tout un tas de choses. C'est donné à l'Opéra de Lyon, ça a commencé le lundi 13 décembre. Alors attention, l'horaire, c'est un petit peu long. Donc l'horaire n'est pas à 20h, c'est à 19h30. Et pour une durée qui est une belle durée, est-ce que je l'ai sous les yeux, 3h15. Mais c'est parce qu'il y a deux entractes aussi. Donc deux entractes, ça laisse l'occasion de se remettre de la belle musique écoutée, de boire un verre peut-être au bar de l'opéra. Cet opéra, cet oratorio-opéra, ouais, peut-être que je pourrais l'appeler comme ça, continue. Il y a encore une date ce mercredi 15 décembre. Et en fait, ça se terminera le dimanche 2 janvier à 16h. Ça n'est pas donné tous les jours, hein, c'est donné plus ou moins tous les deux jours. Vendredi 17, dimanche 19, mardi 21, jeudi 23, mardi 28, jeudi 30 décembre, et puis ensuite le dimanche 2 janvier pour terminer. La langue, c'est en anglais, surtitré en français. Les tarifs, 10 euros, tarif modique, on peut aller jusqu'à 110 euros. Il y a un dîner d'entracte qui peut être proposé, et on s'est proposé à l'âge de 14 ans. Et il y aura également, ah non, c'est un peu passé, l'école du spectateur, c'est-à-dire une sorte de présentation, c'était avant-hier, lundi 13 à 18h. Ça a été chroniqué tout de même par un grand journal, comment est-ce qu'on le qualifie généralement, un journal du soir. Le Monde a fait deux pleines pages la semaine dernière sur les spectacles à venir dans toute la France. Bien entendu, il n'y en a que pour Paris. Et puis, il y a quand même trois spectacles hors Paris qui sont donnés. C'est assez stupéfiant, les trois sont lyonnais. Il y a ce fameux Messie de Handel qui est donné à l'Opéra de Lyon. Il y a Fracasse de Jean-François Ambert qui est Jean-Christophe Ambert qui est donné au Célestin. Et également Un aussi est donné dans Le Monde. Il faudrait que je retrouve cet article. Restons un peu sur la musique et nous allons ensuite passer sur du théâtre. Donc pour finir sur le Messie, c'est quand même recommandé par Le Monde et je pense que c'est quelque chose de grande qualité. Je suis pas encore sûr, je ne sais pas si j'irai, les 3 heures m'effraient un peu. Pourtant, je vais avoir un petit peu de temps là, dans les jours à venir. Ouais, j'essaierai, puis peut-être ferai-je un compte-rendu sur le blog. Ça devrait être vraiment de bonne qualité, d'excellente qualité. Stefano Montanari, chef que nous avons déjà reçu à l'émission, il était venu en 2018, en début d'année, puis en fin d'année, est une personne très intéressante et un musicien excellent avec une très belle oreille, une bonne direction, une formidable maîtrise de soi. Enfin, c'est quelqu'un de très bien s'il mène bien l'orchestre, si les chanteurs, et c'est souvent le cas, sont de qualité sur scène. Ça peut faire une belle soirée, ça peut faire un beau spectacle. La musique, il y en a également à venir à l'auditorium un peu partout, mais peut-être qu'on pourrait quitter des choses très classiques. Je vais les évoquer dans 5 secondes. Un concert au Labo, c'est où ça?
Ça n'a plus rien à voir avec l'opéra.
Oui,
ça reste des institutions, parce que c'est avec le Conservatoire de Lyon qui organise des concerts régulièrement. Et il y en a un cette semaine, demain soir, au Croiseur. C'est des concerts qui sont gratuits.
Ah, c'est ça qui est bien. Je viens d'évoquer des tarifs qui étaient de 10 à 110 euros.
Là, c'est gratuit. Le Croiseur, c'est une petite salle de concert et de danse qui se trouve dans le 7e arrondissement et qui sont en partenariat avec le Conservatoire de Lyon pour le Labo. Et le Labo, c'est des musiques actuelle amplifiée, donc là en l'occurrence ce sera de la chanson demain soir, donc deux artistes, une certaine Eva Perret qui débute sa carrière, qui a fait The Voice, donc voilà, et puis un duo qui s'appelle Loada, c'est de la chanson française avec une petite touche électro, et c'est à voir, 20h30, c'est gratuit, le Croiseur dans le 7e demain soir.
Oh là là, qu'est-ce que c'est précis. J'ai à apprendre à Francis des pas de circonlocution, pas de propos de choses oiseuses et d'autres. Je parlais de musique. Alors, on va revenir sur peut-être un peu plus classique à venir à l'auditorium. Du classique, mais que je pourrais qualifier peut-être de classique sympa, c'est le concert de fin d'année, La Chauve-souris. C'est une opérette de Johann Strauss qui sera donnée avec des textes en français. Et j'essaie de retrouver la manière dont l'auditorium lui-même le présente. Comment est-ce qu'il qualifie? Est-ce qu'il, non, ce n'est pas un grand classique incontournable. Ce n'est pas non plus une première fois parfaite avec l'orchestre. C'est le concert Merry Christmas est passé. C'était la semaine dernière pour des œuvres de Rimsky, Korsakov, Anderson et Vaughan Williams avec Leonard Slatkin à la baguette. Je crois que je l'avais annoncé, mais c'est bien passé. Ce n'est pas un rendez-vous classique non plus. Pas avec les enfants. Il me semble qu'il l'annonce. Je sais pas. Ah, le voilà. C'est un concert pour terminer l'année en beauté. La Chauve-souris, opérette de Strauss, donnée donc les mercredis 29, jeudi 30, vendredi 31 décembre à 20h, et même le samedi 1er janvier à 16h. L'ONL, l'Orchestre National de Lyon, sera dirigé par son chef permanent, son nouveau directeur musical, quoique nouveau, c'était cette fameuse période Covid, en fait, ça commence à faire déjà 2 ans, je crois, qu'il est à Lyon. Nikolai Schepp-Snyder à la direction, et ça peut être une belle manière de terminer l'année, parce que c'est Forcément, il faut comprendre l'auditorium, c'est festif, il y a plein d'air entraînant et c'est très beau, c'est très bien. Les autres scènes musicales lyonnaises, j'avoue Francis que je ne les couvre pas toujours très bien. Transborder, j'ai manqué Tricky qui est passé je crois il n'y a pas très longtemps, c'était à la fin novembre me semble-t-il. Et sinon, hein, le klezmer, tout ça, le klaxon, mais il...
Ah, le klaxon, c'est fini.
Oui, c'est fini. Je savais.
Il y a plein de belles salles dans les musiques actuelles. Je pense par exemple au Ninkasi. Ninkasi Gerland, où il y a beaucoup de concerts. Et puis après, il y a aussi des structures qui organisent des concerts. Je pense à Mediatone, qui organise beaucoup de concerts sur Lyon. Il suffit de taper mediatone.net et vous trouverez tous les concerts qui vous intéressent dans le cadre des musiques actuelles amplifiées. Ils font pas trop de classiques et ils font pas trop d'opéra, Mediatone. Mais voilà, sinon ils font de la chanson, du rock, du reggae, un petit peu de tout.
Attention, Spectaculaire Francis, faut pas se méprendre, il y en a pour tous les goûts. Hein. Comment c'est déjà une émission à caractère culturel, un peu mais pas trop quand même, les mercredis 14h à 15h. Alors il est vrai, une émission culturelle certes, et en plus peut-être un poil classique. Oui, ça n'est pas faux.
Alors dans des formules un petit peu plus classiques, on peut penser aussi au Périscope. Au Périscope qui est à côté de la Brasserie Georges.
C'est sur la commune, c'est encore Lyon.
C'est Lyon, dans le deuxième arrondissement, ça doit être à 300 mètres de la Brasserie Georges, pour les Lyonnais qui connaissent bien cet endroit.
De Georges Hopfer, hein, je crois.
Et
à Perrache, quoi.
À Perrache. Ils sont plutôt sur des esthétiques de jazz. Musiques improvisées, mais pas mal de musiques actuelles aussi dans le cadre de partenariats avec le Marché Gare, que peut-être certains auditeurs et auditrices connaissent.
Francis, il va falloir les couvrir, hein, et si ce n'est moi qui m'y rend, ce sera toi, hein, faudra évoquer tout ce qui peut se faire, parce que il y a beaucoup de choses, hein. On est quand même Lyon, c'est quoi, c'est deuxième agglomération de France et troisième ville seulement, parce qu'il me semble que Marseille passe devant en termes de population, mais
et puis une grosse dynamique culturelle.
Ouais, Marseille, il y a moins de choses, hein, quand même, je crois. Hein. Et l'opéra, en fait, le lieu de musique classique, c'est un lieu unique. Opéra, auditorium, tout ça, c'est une même salle. Et puis il me semble qu'il y a moins de celles. Après, il y a une culture populaire peut-être autre.
Ouais,
peut-être plus de choses qui se font dans les quartiers ou dans différents endroits. Nous, à Lyon, c'est bien. On a l'auditorium d'un côté, l'opéra de l'autre, et puis d'autres choses. On est en train de beaucoup parler, 14h23. Est-ce qu'on écoute ce titre de Brigitte Fontaine, Éternel,
pour pouvoir enchaîner ensuite sur Hun.
Sur Hun, effectivement, et puis sur un peu de théâtre et différentes choses. Ah, c'est ballot, j'aurais dû te laisser prononcer Hun et lancer le titre. On va refaire. J'ai tout calé. Peut-être pourrais-tu nous indiquer où ça se trouve et jusqu'à quand, tu sais?
Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas.
Dimanche 26 décembre.
Voilà, par contre, où ça se trouve, c'est au Théâtre des Célestins. Dans la petite salle qui est en dessous, pas la grande salle, et il ne faut pas se méprendre, théâtre qui plutôt accueille des formes classiques habituellement. Là, on n'y est pas du tout, mais on en parlera peut-être après avoir écouté Brigitte.
Et l'horaire.
Brigitte Fontaine. Oui, c'est à 20h30.
Je veux être aimé pour moi-même. Et non pas pour mes ornements. Je veux être adoré quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil. Éternel, éternel. Avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimée sans parure. Je veux être aimée pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimée pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil. Éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimée sans cheveux. Je veux être aimée pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se donnent pour mon charmant occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil. Éternel, c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. veux être aimée pour le pire. Je veux être aimée pour mes os. Je veux que les hommes le délirent comme des chiens sentimentaux.
Éternel. C'est, ils sont bien ces derniers mots prononcés par nos chanteuses. Juliette tout à l'heure, c'était c'est la fin. Et là, à l'instant, Brigitte Fontaine, éternel, avec deux L. Nous nous sommes dit, hein, Francis, que c'était un bon titre pour parler de ce spectacle. Bah, mais tout d'abord parce que je ne me trompe pas, j'ai un doute, mais le spectacle s'ouvre avec cette chanson, non? C'est... Je me demande si on a vu le.
Non, parce il s'ouvre que... pas avec cette chanson, il s'ouvre avec.
Il s'ouvrait. Alors peut-être alors, que Johan Hibert est très fort.
Ça démarre avec. Alors ce qu'il faut savoir sur cette pièce, c'est que c'est une pièce de marionnettes, des marionnettistes, et puis il y a deux musiciens sur scène.
De part et d'autre.
De chaque côté de la scène, un violoncelliste qui joue avec une multitude de pédales d'effet qui rendent le violoncelle complètement décalé par rapport à ce qu'on peut en entendre habituellement. Alors évidemment, il y a aussi le violoncelle Archer et Pids comme habituellement, mais je trouve que il est capable de mettre de la disto, enfin voilà. C'est deux musiciens exceptionnels, et de l'autre côté de la scène, on a un pianiste, vibraphoniste, batteur. Et tous les deux, ils remplissent l'espace sonore de super bien.
À la voix aussi parfois.
À la voix.
Ils ont un micro. Voilà, ils font les chœurs.
Donc il y a deux musiciens qui accompagnent cette pièce. Et puis ben j'enchaîne. Hein, je vais en dire. Je l'ai vu hier soir, donc c'est tout frais dans mon esprit.
Et donc elle est pas éternelle.
Et oui, en effet, oui, il y a éternelle, mais peut-être pas au début, pas en ouverture en tout cas. Mais
je crois qu'il ouvre dessus.
Parce que c'est vraiment une nappe sonore pour démarrer le
oui,
spectacle.
Un peu peut-être. Voilà. Mais après, c'est il me semble c'est le premier titre qu'il chante.
Et alors, ce qu'il y a de super bien dans cette pièce, qui est quand même décapante, on peut le dire, c'est ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que du coup, au pays de la marionnette, dans la ville de la marionnette un peu traditionnelle du théâtre de Guignol, là, Johan Hibert utilise du coup la marionnette, mais il la décale totalement. Alors attention, âme sensible, s'abstenir.
Ah oui, oui, oui.
Parce que c'est quand même assez cru, ça part un peu dans tous les sens.
L'âge, je vois pas l'âge, mais
c'est très provoquant et mais le discours est profond et voilà, c'est ça, c'est vraiment l'histoire de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, avec tous ses tous ses besoins vitaux. Et à aller voir, je pense. Et moi, ce que j'ai retrouvé aussi un remarquable travail de la technique. Ils sont extrêmement forts, autant dans le son, les lumières, les marionnettistes sont super forts, des costumes à couper le souffle, des accessoires à ne pas mettre entre toutes les mains, à voir. La musique est magnifique et il y a un gros travail qui a été effectué pour justement mettre en scène cette pièce. Et je trouve remarquable que le Théâtre des Célestins puisse accompagner ce genre d'initiative et ce genre de théâtre un peu provoquant. Ça les aide et puis ça, j'imagine que derrière ils vont partir en tournée, donc ils ont pu expérimenter plein de choses au sein de cette magnifique Célestine, cette petite salle en bas, enfin je dis petite salle. J'étais avec une amie hier soir et on se posait la question de la capacité de cette salle. Il me semble qu'on est autour de 200 à peu près, 200 places. C'était complet, archi complet, mais allez-y, si vous reste encore des places, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Il faut quand même avoir une sacrée ouverture d'esprit pour bien comprendre et bien lire tout ce que raconte Johan Hibert, parce qu'il raconte plein de choses sur la liberté, sur l'acceptation de soi, sur laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, et voilà, d'être soi-même. Je pense que c'est un peu le cœur du message, avec par le prisme de plein de choses. Alors j'ai appris hier soir que Johan Hibert était aussi un artiste associé au théâtre de la Croix-Rousse. Je ne le savais pas. Donc à voir s'il a d'autres spectacles qui seront à voir dans l'année, mais j'imagine que tu as déjà fouillé tout ça.
Je les ai sous les yeux, Francis. Je ne ferai pas un compte-rendu aussi précis. Je vais annoncer dans quelques instants ces spectacles qui seront donnés à la Croix-Rousse. Seulement peut-être j'ai sévi sur le blog, j'ai commis un petit compte-rendu que je ne vais pas lire en intégralité parce que tes propos étaient très très bien, très intéressants. Je vais peut-être indiquer seulement ces petites précisions. J'étais très content du titre, Johan Hibert au Célestin, son un est super fun, donné presque tous les soirs jusqu'au dimanche 26 décembre. Attention, c'est 20h30 en semaine, le dimanche c'est à 16h30, dans la Célestine, ce spectacle est absolument génial, un à prononcer donc,
Je me demande s'il n'y a pas un espèce de jeu de mots là-dedans, c'est un, une, et c'est justement
le truc,
tout le...
C'est comme le pronom suédois non genré.
Voilà, c'est ça.
Et j'ai mis, cela en dit assurément beaucoup, crois que sur la note d'intention c'était évoqué.
C'est un peu l'idée, c'est-à-dire est-ce qu'on dit un, est-ce qu'on dit une, alors là on ne sait pas trop, pendant toute la pièce, c'est justement le but de cette pièce.
Cette marionnette est-elle une ou un?
Voilà, c'est ça, avec tout ce qui peut se passer autour de ce non genré.
Un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 2015, permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme, ou une marionnette, ou un marionnette. Donc voilà, je ne vais pas lire l'intégralité, mais je pourrais réécrire peut-être pour ajouter ce terme qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, Francis, c'est dans la ville de Guignol, disais-tu, on pourrait qualifier ce spectacle de trash additionnel.
C'est pas mal.
Il y a quelque chose d'assez...
exactement ça.
Mais décapant, c'était très bon aussi.
Et puis...
c'est violent, hein. Ça peut être même heurtant, quoi.
Je pense qu'il...
drôle quand même, toujours.
Ils reprennent toujours l'idée lyonnaise aussi, avec la religion, qui est quand même assez présente à Lyon, avec ce qui est normal, hein, avec Fourvière, et assez d'actualité, finalement. Avec tout ce qui est dit dans cette pièce, et je trouve que d'écrire ce type de pièce par le biais des marionnettes, il nous manque juste la gastronomie et puis on y serait presque. En tout cas, c'est typiquement lyonnais, mais pas typiquement lyonnais non plus.
Ah non, mais c'est vraiment vraiment très bon. Les différentes chansons, donc. On l'a peut-être pas indiqué, la forme c'est un cabaret, donc c'est-à-dire que
oui.
Cette marionnette est sur scène.
Un gros travail d'écriture, une voix magnifique du chanteur.
Et c'est la voix de Joanie, c'est Johan Hibert himself, qui d'ailleurs à la fin, pour les applaudissements, il était venu se présenter
avec
le masque relevé.
Voilà.
Et donc c'est bien lui avec
tout à fait.
Très juste une voix,
sa voix,
et il sait chanter.
Et c'est marrant parce qu'au tout début, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que j'ai retrouvé un petit côté Albin de la Simone pour je sais pas si certains auditeurs ou auditrices connaissent Albin de la Simone, mais dans cette petite voix un petit peu feutrée, un petit peu les arrangements violoncelles. Mais au fil du spectacle, on se rend compte qu'il n'a pas que cette petite voix, parce qu'il y a des passages opérettes, on pourrait dire, enfin chantés avec une belle voix. Donc il nous fait part de toute sa panoplie vocale pendant le spectacle, et je trouve qu'aussi sa voix est très très agréable à parler. Et puis c'est un comédien hors pair.
On l'aura, il improvise
avec les gens.
Il est en direct, c'est bien du spectacle vivant. Attention, ce n'est pas enregistré.
Non, il
attrape des choses dans le public.
Dans le public, il l'a fait hier soir, hein. je peux vous le garantir.
Pareil,
que
la semaine dernière.
Le public fait partie du spectacle. Et le moindre petit fait dans la salle, il s'en saisit et rebondit dessus. Donc forcément, on est happé. Et on a plutôt intérêt d'être happé, parce que si on se déconcentre, il va pas vous lâcher, quoi. Donc, c'est un spectacle interactif, on peut dire.
Vous l'aurez compris, auditeur, il faut y aller. Les tarifs, est-ce que je les ai sous les yeux? Non, je ne les ai pas forcément, pas tout à fait. Mais la Célestine, hein, je crois que c'est jamais très cher, me semble-t-il. C'est des tarifs pas forcément réduits, mais c'est tout à fait abordable. C'est donc donné à 20h30, samedi 25 et dimanche 16, et dimanche 26, c'est donné à 16h30. Relâche les lundis. Donc en fait, là, il reste tous les jours jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, sauf lundi prochain. Et puis voilà, durée 1h15. C'est important parce que, on se le disait tout à l'heure aussi, Francis, il y a peut-être une petit bémol que nous pourrions introduire sur ce propos qui est parfait pour sa forme. Dans le fond, ne manque-t-il pas quelque chose, enfin, ne pourrait-il pas aller pas tant plus loin,
J'ai beaucoup aimé, à la fin du spectacle, il y a un rappel qui est prévu, enfin, il joue là-dessus, et il fait une dernière chanson qui est magnifique, mais vraiment magnifique, qui est tout en intimité, juste violoncelle et lui qui chante. Le texte est beaucoup plus simple que certains textes qui sont au début, avec beaucoup de jeux de mots, pas toujours, il y a plein de jeux de mots et c'est très joli à entendre, mais là, le dernier titre, c'est très brut, mais plein de poésie, plein de douceur et surtout plein d'amour. Et il parle d'amour sur ce dernier titre. Et je me disais, oui, sur le spectacle, il y a beaucoup de provocations pendant toute l'heure et quart du spectacle. Et peut-être que on aurait pu aller un petit peu plus loin, justement, là, sur cette dernière chanson où il exprime avec beaucoup de pudeur ce que c'est que l'amour et comment c'est d'être aimé pour ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et c'est au-delà du un ou au-delà du non-genré, je pense. Ça peut parler à plein d'autres domaines. Voilà.
Un artiste à suivre, nous dis-tu, Francis, le disent les Célestins. Il est à retrouver au Théâtre de la Croix-Rousse en 2022 avec le processus du 13 au 15 janvier et puis une épopée du 9 au 12 juin et la nouvelle ronde également encore plus tard en octobre. Ce sera sur la saison 22-23 du Théâtre de la Croix-Rousse. J'ai sous les yeux la présentation du processus qui sera donc donné au Théâtre de la Croix-Rousse les jeudis 13, vendredi 14 et samedi 15 janvier. À 19h30, vendredi 14 à 20h et samedi 15 à 19h30, oui. Écoute ça, Francis, le processus donc. Claire a 15 ans, elle est enceinte. C'est un accident, comme on dit. Que faire? En parler à Fabien? Ne pas lui en parler? En parler à sa mère? Avorter? Dans ce récit, nous accompagnons Claire durant ces quelques jours où tout se joue, ou se déjoue plutôt, et où l'on n'entend plus rien d'autre que ses propres pulsations intérieures. Avec vivacité et maturité, Claire livre ses doutes, ses sensations, ses questions et ses colères, le tout rythmé de flashbacks retraçant son histoire d'amour avec Fabien. Seule en scène, la comédienne interprète tous les personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent parfois. Ses états émotionnels prennent forme dans les couleurs vives d'un film d'animation, créé spécialement pour l'occasion. Un spectacle fort et touchant qui décortique avec délicatesse le sujet de l'avortement. Joanne Hibert est artiste complice du théâtre de la Croix-Rousse, donc c'est un premier texte. Rude hein, quand même, non? Ça a l'air d'être...
Ouais, c'est ça, c'est à l'image de ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, il peut aller très très loin justement dans cette écriture-là.
Et alors un peu plus tard, j'ai annoncé le processus, ça c'était cette première pièce, et il y avait donc une épopée, ce sera alors un spectacle très particulier, une épopée donnée seulement sur deux dates, les samedis 11 et dimanche 12 juin, mais alors écoute bien ça, Francis, durée 6 heures. Avec 2 heures d'entracte, panier repas à réserver.
Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais demander.
Une épopée, c'est le pari fou et joyeux imaginé par Joanne Hibert d'embarquer enfants et adultes dans un spectacle aventure d'une journée entière. Un frère et une sœur grandissent avec leurs parents à l'abri du monde moderne. Un jour, ils s'évadent et au-delà des murs commence pour eux une véritable aventure dans la lignée des récits d'Homère ou de la mythologie de Tolkien. Mais à la différence de l'Iliade et de l'Odyssée, il n'est pas tant question de conquérir les terres que de les préserver. Interprété par 7 comédiens, comédiennes, un musicien et des marionnettes, cette fable déploie un langage hybride entre théâtre, objet et musique. Petits et grands enfants sont tenus en haleine tout au long de ce récit où les temps de pause et de convivialité, pique-nique, sieste, goûter, font partie de cette échappée extraordinaire, une création immersive hors norme, promesse d'une expérience théâtrale inoubliable. Joanne Hibert est artiste complice du théâtre de la Croix-Rousse. C'est une toute petite ligne qui est écrite dessous. Je ne devrais pas l'évoquer, je pense. Joanne Hibert, attention, hein, auditeur, auditrice, on est en train de faire de la radio. On vous l'appelle Johanny, Bert. C'est un nom à taper sur Internet et même peut-être plus que ça, puisqu'on est en train de vous l'indiquer. C'est un nom à suivre à la Célestine, actuellement là, jusqu'au dimanche de la semaine prochaine, 26 décembre, et au Théâtre de la Croix-Rousse, sur 3 dates, mi-janvier, les 13, 14, 15, début juin, les 11 et 12, et plus tard en octobre, dans la saison 22-23 du Théâtre de la Croix-Rousse. On se le promet.
Oui, il va faire parler de lui, je pense. Il va faire parler de lui.
On l'invite. On va essayer. Mais je crois qu'il est justement sur main projet. C'est ce qui l'a empêché d'être présent aujourd'hui. J'ai toute une programmation d'Albin de la Simone sous les yeux. Mais est-ce qu'on terminerait sur un peu de théâtre? À la Croix-Rousse, il y a à venir actuellement. Ce n'est pas Joanne Hibert. Hein. Joanne Hibert actuellement, non, il est bien à la Célestine. Ces jours-ci, Julia, c'est terminé. C'est intéressant, la Croix-Rousse fait un peu d'écho avec d'autres théâtres lyonnais. Julia était donnée début novembre. C'était une pièce d'après Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg. Et un peu plus tard, à la fin novembre, était donnée la même metteuse en scène, Christiane Jatay, une metteuse en scène brésilienne, était donnée entre Chien et Loup. inspiré de Dogville. C'était donc au TNP et Mademoiselle Julia, enfin Julia tout court, était au théâtre de la Croix-Rousse. Et là actuellement c'est à la Célestine Joanne Hibert pour Un. Et un peu plus tard, la Croix-Rousse le programma aussi. Donc là actuellement, non, ça non plus, Barbe Bleue non plus. Je crois que c'est le Pajama Game, il me semble. Mais non, c'est The Valley of Human Sound qui est donné sur, à partir de cette fin de semaine, du vendredi 17 décembre jusqu'au 30 décembre. The Valley of Human Sound, ballet de l'Opéra de Lyon. Grégory Macoma, chorégraphe d'Afrique du Sud. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais ce que je sais, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Voilà, il y a un peu de choses, sur des lieux différents. L'opéra donc envoie son ballet à la Croix-Rousse et donne sur sa scène principale le Messie. Et puis ils envoient également un spectacle qui est repris au théâtre de la Renaissance, le Pajama Game, qui avait été programmé il y a quelques années. Et nous avions avec Gérard, on en avait parlé pendant toute une émission. C'est à retrouver, je mettrai ça sur le blog. Donc vous l'aurez compris, avec la chauve-souris que j'évoquais tout à l'heure de l'auditorium, il y a une fin d'année qui est assez festive, The Valley of Human Sound, donc de la danse. Une communauté de femmes décèle dans les sons une source de pouvoir pour créer un monde magique. The Valley of Human Sound pour petits et grands enfants. Place au centre quatre danseuses et une chanteuse qui se découvrent tour à tour mère, sœur, guerrière ou sorcière. Une boîte à plusieurs facettes les accompagne et révèle les mélodies, les identités et les histoires dont elles sont les dépositaires. Cette boîte magique est comme le monde, c'est un puzzle, nous confie le chorégraphe Grégory Macoma. Et c'est tout, leader de la scène contemporaine sud-africaine. Albin de la Simone, je laisse les yeux, mais oui, je parlais de théâtre.
Je ne me souviens plus du tout de quel titre auquel je pensais, mais peu importe en fait. Ce que je trouvais intéressant avec Albin de la Simone, c'est que je trouvais la voix de Joanie et Albin à peu près identique.
Je vais te les énoncer une fois que j'aurai indiqué les quelques pièces qui vont être données au théâtre des Célestins. Donc tu l'as très bien dit tout à l'heure, dans la petite salle qui n'est pas si petite que ça, la Célestine, est donnée donc Un actuellement, et sur la grande scène, dans la grande salle, c'est la pièce Fracasse du 14. Ça commence. C'est hier, mardi soir, jusqu'au 31 décembre, jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Fracasse, c'est intéressant, hein, c'est inspiré, c'est tiré du roman Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, un roman adapté, donc mis en scène. Présentation très courte que font les Célestins. Insatiable Caradoc de Vannes dans Camelot. Jean-Christophe Ambert quitte sa cotte de mailles et adapte Le Capitaine Fracasse. Découvrez les aventures du baron de Cigognac, de sa bien-aimée Isabelle et de son ennemi le duc de Vallombreuse. Un spectacle de troupes épique et exaltant. Dès 12 ans, c'est un spectacle focus. Il aurait dû être donné, il y a de ça, un ou deux ans, au Théâtre des Célestins. Et puis, un petit Covid est passé par là, donc ça a rendu les choses un peu compliquées. Je pense que je m'y rendrai. Je tenterai de faire un compte-rendu sur le blog. Ça va être bien. La distribution est formidable. David Ayala, qui est déjà venu plusieurs fois à l'émission. Thomas Cousseau, qui est le Lancelot, qui n'est pas encore venu, mais on tentera un jour. Il me semble avoir lu aussi le nom de Jacques Chambon, le Merlin de Camelot, qui est déjà venu à l'émission. Je ne sais pas si Perceval, qui est également venu, sera présent, mais comme ce que j'ai indiqué pour Auditorium et tout ça, ça a l'air d'être bien festif. Le Messie, peut-être moins le Messie à l'opéra, mais pour ce qui est des autres spectacles, y compris la danse au Théâtre de la Croix-Rouge, je crois que c'est des choses, enfin, je le qualifie de festif, mais c'est forme de fête un peu. Et je termine avec le TNP qui programme une très belle pièce actuellement, La Seconde Surprise de l'Amour de Marivaux, pièce de 1727 dans une mise en scène d'Alain Françon. Le monde l'a chroniqué quand c'était donné à l'Odéon ou je ne sais plus dans quel théâtre parisien en début de saison, septembre-octobre. C'est très très bon, c'est du très bon Marivaux, hyper classique certes, mais disons le texte, pour ce qui est de la mise en scène, c'est pas foncièrement hyper moderne, mais c'est très bon, c'est très sobre, très simple, et c'est d'un talent dingue. Georgia Scalet qui interprète la marquise est absolument mais stupéfiante, et les autres comédiens sont à la hauteur. Il y a une petite musique parfois, non, c'est vraiment un beau spectacle. 20h, se termine cette semaine, se termine samedi ou dimanche, c'est à 20h en semaine, 19h30, attention, les jeudis au TNP, et si la pièce est donnée dimanche aussi, je l'ai plus sous les yeux, c'est en milieu d'après-midi, 16-17h. J'ai comme titre Happy End, le film d'Albin de la Simone, un titre de 9 minutes, j'ai sinon extrait de l'album Extremadura, non, c'est pas l'album Extremadura, c'est un album, je sais plus lequel, et donc il y a Californie, j'ai La Chambre, Tulipes, les Tulipes même, Merveille, Unami, Le Chalet, La Falaise, Qu'est-ce que je peux...
Mes épaules, t'aurais pas ça ?
L'un de nous, oui, oui, je vais certainement trouver. Emiliana Torini, moi, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes épaules, je l'ai.
Bon, bah,
j'ai le clip officiel.
On peut écouter ça.
Bon, ben, mes épaules, c'est très bien. On attaque, là, tout doucement, la toute fin d'émission. Je pense que, auditeur, auditrice, après ce titre d'Alma de la Simone, il sera temps d'écouter... L'égoïsme se partage. Chronique aujourd'hui sur une bande dessinée. J'ai fait exprès, je n'ai pas encore donné le titre. C'est toi qui l'indiqueras, Francis. Bah écoute, prépare-toi. 3 minutes le titre. Auditeur, auditrice, rendez-vous juste après ce titre. Oh non, non, c'est pas possible. Non, 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 attends. Je suis en train de, je l'avoue, de lancer du YouTube. J'ai une petite publicité qui m'est proposée. Non, mais non, non, on va s'en passer à un Chromebook, t'en as un, voilà, on s'en fout de, d'ailleurs que j'ai rien nommé. Voilà. Voilà, il est prêt, donc il est bien là. Albin de la Simone, nous avons dit, mes épaules, et ne manquez pas juste après, c'est l'égoïsme se partage.
Maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes. L'amour, l'humour, égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir.
C'est ce que je disais, la voix vraiment correspond à peu près à la voix de Johann Hibert, en tout cas au début de la pièce. Alors aujourd'hui, eh ben, merci Christophe de me réinviter pour cette seconde chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage. Aujourd'hui, je voulais parler d'ignorance. Mais attention, pas à n'importe quelle ignorance. Pas celle qu'on étale sur les réseaux sociaux ou qu'on affirme par-ci par-là, non. Je voulais parler de l'ignorance dont on a conscience. L'ignorance qu'on veut combattre et voir disparaître. Alors, avec un sujet un peu commun, quoique, il s'agit du vin et de la BD. Je vais vous parler aujourd'hui de Étienne Davodeau, qui a commis cette BD qui s'appelle Les Ignorants. C'est donc le récit autobiographique de l'auteur, Étienne Davodeau, qui part à la rencontre d'un vigneron, Richard Leroy. L'idée est assez simple, ils veulent tous les deux apprendre l'un de l'autre. Étienne Davodeau souhaite mieux comprendre la vie quotidienne d'un vigneron, à condition que ce vigneron apprenne lui aussi la vie quotidienne d'un auteur de bande dessinée. Donc les voilà, nos deux compères, à essayer d'apprendre l'un de l'autre. Un titre assez malicieux finalement, et assez trompeur, car c'est bien là l'idée principale de cette BD. Mieux connaître non pas uniquement le vin, mais bien les métiers du vin, celui de vigneron, et surtout rencontrer un personnage, une personnalité forte, ce fameux Richard Leroy. Étienne Davodeau nous raconte le quotidien du vigneron sur toute une année, au gré des saisons et des obligations liées au temps, aux intempéries. Dit comme ça, ça a l'air un peu chiant à lire, mais c'est passionnant parce que c'est bien écrit. Les dessins, même en noir et blanc, c'est un parti pris de l'auteur, donnent envie d'aller se promener dans les vignobles de la vallée de la Loire en hiver. Même en hiver, oui. C'est d'ailleurs marrant car au fil des pages, on oublie complètement ce noir et blanc. Et dans mon souvenir, j'avais l'impression que cette BD était en couleur. Preuve quand même que ce Étienne Davodeau est très talentueux. Plein de petites anecdotes au fil des pages, par exemple quand le paysan se rend en Belgique pour voir comment ça fonctionne l'édition d'une BD avec des débats sur la super qualité du papier, le choix des encres, des réunions à n'en plus finir, on a l'impression de croiser Crocodile Dundee à New York. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais Richard Leroy ne se résume pas à cet ours mal léché. Comme toujours, ceci est un masque, car ce vigneron est bien plus que ça. Au fil des pages, il nous parlera de sa philosophie, de sa fibre écologique, de son respect du travail difficile, de son respect des anciens, et en même temps son envie de changer les méthodes. Bref, c'est un livre passionnant, et tellement dans l'air du temps. Celui qui fait l'apologie d'une certaine idée, moins, mais mieux. C'est vraiment sa philosophie. Et comme il s'agit d'une réédition, 10 ans après la première parution à la fin du récit, les deux protagonistes reviennent sur cette belle aventure et sur ses conséquences. Au-delà d'être amateurs de vin, de vignobles, d'agriculture ou bien de BD, ou d'écriture ou de dessin, ce qui prime dans cette histoire, c'est surtout une certaine idée de la vie. Une certaine idée que chacun se fait de la vie. Faire des choix, puis les vivre avec bonheur. Avoir envie de se réaliser. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu à Han. Parce qu'il y a cette idée d'assumer un peu ses choix. Alors il n'en était pas à son premier coup d'essai, hein, Étienne Davodeau, il avait fait plein d'autres BD. Lulu Femme Nue, par exemple, qui est assez connu. Alors moi je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas trop en parler. Mais en gros, c'est l'histoire d'une femme qui disparaît et qui se laisse justement glisser pour vraiment apprécier sa vie sur un temps donné. Bon, si des auditrices et des auditeurs l'ont lu, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis il avait fait aussi une autre BD qui s'appelle Les Mauvaises Gens. C'est un documentaire en noir et blanc qui a été publié en 2005 par Delcourt. Et ça raconte l'histoire de ses parents par le prisme de leurs activités syndicales. Il y a eu un beau succès critique. Donc à voir, peut-être que je me lancerai dans la lecture de ces BD plus tard. Et puis juste un dernier petit mot, je voulais faire un petit clin d'œil à JB, qui m'écoute, je pense, parce que c'est lui qui m'a offert cette BD et je le remercie grandement pour ce cadeau et qui m'a permis de faire cette seconde chronique. Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais je vous dis à bientôt si Christophe, tu me l'autorises.
Lâcheur pour la semaine prochaine. Nous recevrons bien et je te remercie, ça va être la fin de l'émission. Donc finalement, quelques petites annonces, hein, du moins les prochaines émissions avec différentes choses. Si c'est bien, hein, auditeur auditrice, la troisième chronique sera en 2022. A priori, mercredi 5 janvier peut-être, début janvier.
C'est ça, tout à fait.
Mais pas la suite, la quatrième, faudra à nouveau attendre un petit peu.
Je ne sais pas, on verra, ça dépend des annonces covidiennes, puisque peut-être que je serai bloqué en France et que je ne pourrai pas partir.
Ah, bon.
Je peux déjà vous dire, non, je ne vais pas vous le dire de quoi je vais parler le 5 janvier.
Moi, je te souhaite quand même de partir, même s'il y aura beaucoup de neige là, je suppose. Mais Zeg, il va y avoir de la neige, mange la main. Enfin bref, ça va être voilà, très ça. Bien. Vous aurez peut-être deviné ou pas. Donc, la troisième chronique à venir sur roman, c'est fait, bande dessinée aussi.
Alors, ce sera sur un roman qui vient de sortir et que.
Ah, une sortie récente.
Que je n'ai pas terminé, mais que j'adore déjà.
Le livre d'Abel Quentin était assez. Non, Quentin Abel, je mélange un peu.
Abel Quentin.
C'est bien lui, Abel Quentin est assez récent, non
c'était, ah oui, il est tout récent. Janvier, février, oui, il est tout récent, je sais.
Il a eu le Goncourt des Félicien, tu nous avais dit.
Non, ça c'est Sœur, c'est son premier, c'est son premier livre qui a eu le concours.
Il avait été en lice pour,
Le
finale.
Concours des lycéens, mais il l'a pas eu. Et là, son second roman, ça y est, j'ai perdu le nom, c'est pas possible.
Réécoutez la chronique de la semaine dernière.
N'a pas eu le prix Goncourt. En revanche, il était en effet précité pour pouvoir l'obtenir.
Prochaine chronique, donc, eh bien, ce ne sera pas la semaine prochaine. En revanche, l'émission 250 aura bien lieu. Oui,
tu les voyants des temples.
Ah, c'était le.
C'est ça.
Pour la semaine dernière.
La semaine dernière.
Bon,
pardon.
La semaine prochaine, nous recevrons bien Claire Isle, directrice de Luc Dunoum, le musée et théâtre romain sur la colline de Fourvière pour l'exposition En quête de pouvoir, qui a commencé le 6 octobre dernier, mais se termine le 27 février prochain. Donc, il y a encore beaucoup de temps. Comment conquérir le pouvoir? Comment le conserver? Quelles stratégies adopter? Autant de questions auxquelles la nouvelle exposition temporaire de Luc Dunoum, Musée et Théâtre Romain, répond en interrogeant toutes les facettes du pouvoir à travers une crise politique de l'Empire romain qui se cristallise à Lyon. Pas assez simple, qui se cristallisa à Lyon en 197 après Jésus-Christ lors de la bataille de Luc Dunoum. L'exposition et puis le musée lui-même et puis différentes choses, ce sera la matière de cette émission 250. On arrive à la 250e mercredi prochain, San Francis, que vous retrouverez néanmoins, auditeurs, auditrices, le mercredi 5 janvier 2022. Donc voilà, cette exposition du festival, cette exposition de Enquête de pouvoir à Luc Dunoum a lieu ces jours-ci. Les horaires, est-ce que je les ai sous les yeux? Oui, c'est du 10h-18h, je crois, toute la semaine. Il y a, oui, si, je les ai quand même. J'ai l'accès, on peut prendre le métro, depuis le métro Vieux-Lyon, funiculaire en direction de Fourvière, ou bien l'autre funiculaire en direction de Saint-Just, mais il faut s'arrêter à Minimes un peu avant. Et sinon, les horaires, non, finalement, je les ai pas, mais bon, c'est ouvert jusqu'à 18h. Quoique là, ces jours-ci, avec hiver, si, c'est jusqu'à 18h. Gratuit le premier dimanche du mois, donc si vous souhaitez vous y rendre le dimanche 2 janvier, ou bien le dimanche en février, ce sera le 4 février, peut-être, je sais plus, ce sera possible. L'autre exposition dont nous avons déjà parlé dernièrement, du Rhône au fleuve bleu, qui se tient aux archives départementales et métropolitaines. C'est quartier Pardieu. Il y a un arrêt de tram devant, archives départementales. Cette exposition a commencé également en septembre, se termine le 26 février prochain. L'accès est du mardi au vendredi, sur des horaires 8h30-17h. Et bien, cette exposition qui est sur la route du Rhône, la route qui mène du Rhône jusqu'au fleuve bleu, comme naguère les Français appelaient le Yangtze-Kiang, elle symbolise la capacité d'ouverture et de création des industriels de Lyon et de sa région. Je vous invite à réécouter l'émission 246 avec Sophie Malavieille, conservatrice aux archives départementales. C'est une belle exposition sur la chambre de commerce de Lyon qui se trouve lancée sur les routes de la soie. D'autres expositions à venir. Oui, il y en a une, et peut-être en parlerons-nous au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Vous vous rappelez, on les a déjà reçus à quelques occasions, et là plus trop dernièrement, alors qu'il y a une belle exposition que je ne suis pas encore allé voir, mais qui est très intéressante. Exposition manifestation de Gérard Paris-Clavel, consacrée aux graphistes engagés. Cette exposition met en lumière ses interventions dans l'espace public et commence à l'endroit même où se trouvent ses affiches, dans la rue. Elles sont très spéciales, ces affiches, très parlantes, peut-être parfois une forme de provocation un petit peu, et je me dis que jusqu'au 27 février, il y aura peut-être matière en janvier ou peut-être début février de faire une émission sur cette exposition qui se tient au musée de l'impression et de la communication graphique. Vous vous rappelez comment Joseph Beltante, je crois, présentait l'adresse du musée, c'est la rue du McDonald's, McDonald's Terreau. C'est la rue est beaucoup plus noble, elle a un très beau nom, c'est la rue de la Poulaillerie. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Non, j'ai plus le numéro, mais c'est très beau, cette rue de la Poulaillerie qui se trouve quartier Cordelier. J'ai dit Terreau, ouais, Terreau Cordelier. Je crois que nous avons tout dit, me semble-t-il. Et 13 rue de la Poulaillerie, c'est bien ça. Les expos, on a tout fait, on a tout dit. 15h, ben c'est très bien. On est prêt pour le blues des canuts. Dans quelques instants, on va peut-être un peu de bande continue en attendant. Je vous propose d'écouter un dernier titre, toujours extrait de cette compil des Inrock. Peut-être que je l'avais déjà mis, je ne me souviens plus. Les Rayons Gamma, du groupe PR2B, sur l'album Les Rayons Gamma, du même titre. Je vous invite, auditeurs et auditrices, à écouter les émissions à venir. Tout d'abord, bande continue, peut-être quelques instants. Blues des Canuts ensuite. Un peu plus tard, à 17h, Mélomaniac. À 18h, Mayday. zone de turbulence sonore. Et puis à 19h, le Canu Info. Et enfin, ça continue même après les Idées Noires à 20h, c'est ça. Et puis même à 21h, la bande-son de nos révoltes, musique contestataire et lutte sociale. Ou bien, il y a par quinzaine, l'émission À l'Est, l'Éden, à 21h. Et pour terminer, le mercredi à 22h, Boulimix, émission Funky Stereo. On aura dit beaucoup de choses. Francis, ça a été un réel plaisir de t'accueillir ces mercredis 8 décembre et 15 décembre. Le prochain, c'est le 5 janvier.
Merci beaucoup.
Ouais, non, vraiment. Et puis, on parlera du Périscope, on parlera de Mediatone. As-tu lancé aussi ? Il y a plein de choses formidables. Écoutons PR2B et puis donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, auditeurs, auditrices, couvrez-vous. Il fait un petit peu froid dans les rues de Lyon. Et puis, si vous sortez, allez voir des spectacles et des expos. Ça a recommencé quand même. Pendant quelques temps, tout était bouclé. Et là, ça a repris. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Ciao, bye. C'est salut.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit. Dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons. Je deviens dingue, Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller. Et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil. Que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier. Et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça. On faisait comment déjà sans les rayons. We'll be right back.